Et nous accueillons Mathias au 3921. Bonsoir Mathias.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Mathias?
Écoutez, ça va, du mieux qu'on peut, hein, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et vous-même?
Mais ça va, moi je suis toujours là, fidèle au poste. Et c'est une heure particulièrement intense pour moi, toujours à chaque fois que je prends cette libre antenne. Je crois que vous nous appelez de loin, Mathias.
Un petit peu, oui. Près de 7000 km, je vous appelle d'Inde, à Goa exactement.
Vous êtes à Goa, d'accord. Alors, dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes à Goa, là, maintenant?
Alors, ça fait une dizaine de jours que je suis ici, une douzaine même. Et je suis en Inde depuis plus d'un mois et demi.
D'accord. Comment ça se passe pour vous, là-bas, en Inde?
Mais écoutez, ça avait bien débuté, puis ça a très mal continué il y a une dizaine de jours. Évidemment, à cause de la crise du coronavirus et puis du confinement que vous venez de mentionner. Hein. Évidemment, chacun vit le confinement à sa façon, mais ici, c'est une situation qui est extrêmement particulière. C'était même inimaginable pour nous, touristes en Inde, qui s'est compliqué très, très rapidement. Mais sinon, effectivement, le début du voyage était très agréable et c'est ce que je voulais vous faire part ce soir.
D'accord. Vous êtes parti pour combien de temps à la base? Vous êtes parti pour un mois de voyage?
Non, pour plusieurs mois. J'ai un visa qui me permet de rester 3 mois. Donc, je prenais mon temps pour faire un tour d'Inde. Je suis en transition professionnelle. Je voulais découvrir le pays.
Oui.
Donc, j'avais jusqu'à 3 mois. Donc, j'en étais à peu près à la moitié de mon voyage.
D'accord. Bon, vous avez donc quand même eu le temps pendant un mois de découvrir un peu ce sublime pays qu'est l'Inde. Je connais un peu.
Exactement.
J'ai eu la chance de m'y rendre plusieurs fois et c'est vrai que ce pays est magnifique. Mais j'ai cru comprendre que les étrangers en ce moment vivaient un peu quelques mésaventures par rapport aux Indiens.
Oui, effectivement, même plus clairement, le voyage paradisiaque est clairement transformé en cauchemar en très très peu de temps. Et notre situation, bien que parmi les Indiens, a quand même été un cas à part.
En fait, il y a combien de jours que le confinement a été déclaré en Inde? Il y a pas si longtemps que ça, hein?
Non, alors un petit peu après la France, ça fait une dizaine de jours, il a commencé le dimanche 22 mars, donc je crois une semaine après la France, si je me souviens bien.
Oui, oui. Et, voilà. et comment ça a été accueilli? Parce que quand on n'est pas allé en Inde, c'est compliqué d'avoir cette image lointaine, mais quand on a eu la chance de s'y rendre, c'est vrai que l'Inde, dans plein d'endroits, c'est comme une fourmilière, quoi. Il y a tellement de monde partout, beaucoup de personnes qui sont tout le temps dehors. En fait, comment ça a été suivi, ce confinement en Inde?
Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Moi, c'est la première fois que je me rends dans ce pays-là. On m'en avait beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de particularités. Mais c'est vrai que c'est un pays riche en culture, en couleurs, en gens, en langues, vraiment extrêmement diversifié, donc j'ai pris mon temps d'explorer un petit peu du coup tous les sud, la deuxième moitié du comté sur tout le nord, et ici le confinement a été annoncé de façon tout à fait différente à ce que vous avez pu connaître en France pour le coup. Ici, le Premier ministre Narendra Modi a d'abord annoncé qu'il s'agirait d'un exercice en fait, d'un ce qu'il appelait un Janata curfew,
oui,
c'est-à-dire un couvre-feu du peuple. Donc une journée, le dimanche 22 mars, de 7h à 21h, tout le monde à la maison. Et je crois que c'était à 16h, tout le monde devait applaudir depuis son balcon, un petit peu sur l'image de ce qui se fait en France et en Europe.
Oui.
Sauf que bien, ça n'a pas tout à fait été la même chose, puisqu'ici les gens sont sortis pour célébrer ce couvre-feu bruyamment et de façon joviale, comme souvent chez les Indiens. Donc je crois que le Premier ministre n'a peut-être pas trop apprécié le résultat de l'exercice et a décidé dans la foulée de prolonger sans avertir personne en avance le couvre-feu, en tout cas le confinement de 3 semaines.
Alors, quand vous avez appris le confinement en France, Mathias, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit que ça allait suivre en Inde ou vous vous êtes dit que ça ne vous toucherait pas directement, en tout cas pas aussi vite?
Écoutez, évidemment, je suis actuellement de très près en France. D'ailleurs, j'entends parfois certains de mes compatriotes rester en France qui estiment que c'est une folie de voyager dans ces temps-là. C'est vrai que j'étais conscient de la situation qui se tendait. Je me suis dit, le confinement est en train de se généraliser en Europe. Ça va forcément arriver ici aussi. Hein. La maladie est en train d'arriver doucement, mais sûrement, si je puis dire. Donc, j'ai décidé justement d'abréger un petit peu mon séjour dans le sud et de me rendre à Goa, puisque c'est un petit état assez bien géré, généralement, par les autorités, et surtout avec une très forte présence touristique. Donc je me suis dit, si jamais ça venait à dégénérer, bien, je serais relativement en sécurité et je comptais louer voilà, une petite, un appartement, quelque chose avec des provisions, des vivres et attendre que le confinement passe plusieurs semaines.
Oui, vous souhaitiez donc faire le confinement directement d'Inde en fait.
Voilà, je me suis dit, bon, c'est une période de quelques semaines à passer comme en France, pourquoi je rentrerai ?
Oui, oui. Non, mais vous avez raison. C'était, c'est, en plus, Goa est un endroit très très beau. Il y a une grande présence européenne, hein, d'ailleurs, hein, parce que beaucoup d'Anglais, de Hollandais, de même de Français
oui,
habitent,
ont
élu domicile là-bas, d'Israéliens aussi. Et donc, c'est un endroit, c'est vrai, où assez bien desservi, en plus, au niveau sanitaire.
Oui.
En tout cas, c'est un des États qui est le mieux desservi. Mais je crois que vous avez affronté une situation assez inattendue de la part des Indiens.
Voilà, exactement. Tout s'est emballé. Donc, c'est vrai que le choix aussi de ne pas rentrer était par rapport à la situation en France. Si vous voulez, le nombre de contaminés évoluait extrêmement rapidement. Tandis qu'à Goa, il est resté à zéro cas de Covid-19 avéré.
Oui.
Donc, forcément, je suis plus en sécurité ici. Donc, à mon arrivée, alors j'ai pris un avion, j'étais à Mysore, un avion qui était absolument vide. Je me suis dit, bon, effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je voyais les États qui fermaient leurs frontières les uns après les autres. Je me suis dit, vite, allons à Goa, je me prends un hôtel sur place, et puis je trouve une location, un Airbnb ou quelque chose, je pourrais rester plusieurs semaines en sécurité. Et bien, ça n'a pas manqué. À mon arrivée, la deuxième nuit, à l'hôtel, la directrice, en pleine soirée, vient me voir tout paniquée et me dit, est-ce que vous entendez ces voix-là dehors? Et j'entends effectivement des gens vociférer au rez-de-chaussée de l'immeuble, de l'hôtel. Et elle me dit, ce sont les voisins qui sont en train de manifester contre votre séjour ici. Ils ne veulent plus d'Européens dans le quartier. Ils considèrent que vous pourriez contaminer les parties communes. Je vous demande de quitter les lieux immédiatement.
D'accord. Donc, alors, on vous demandait donc de partir tout de suite.
Tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est que c'était la veille de ce fameux Janata curfew du dimanche 22 mars. Donc, je ne peux pas quitter les lieux puisque tous les hôtels sont fermés demain, a priori. Donc là, j'ai dû négocier, la calmer. Et elle a accepté donc, de me loger dans une chambre de son hôtel absolument discrète en me demandant de ne pas ouvrir les fenêtres, de ne pas tirer les rideaux, de ne pas allumer la lumière parce qu'elle avait peur que les voisins viennent carrément inspecter les chambres ou me voient par la fenêtre. Et elle avait promis que je partirais la nuit même.
C'est une situation extrême hein, que vous me racontez là. Vous avez eu peur ?
Effectivement, j'ai eu peur. Effectivement, c'est tombé d'un coup. Et le plus effrayant, ça a été la violence des gens que j'entendais derrière.
C'est-à-dire ?
Eh bien, je les entendais vociférer. Elle m'a dit, ce que vous entendez, les gens en train de manifester en bas, effectivement, je les entendais vociférer.
Quand on est comme ça, loin, en plus, dans un pays aussi mystérieux hein, que l'Inde, en plus, parce que, pour vous, chers amis, qui n'avez pas eu la chance d'y aller, ce pays est, bon, et comme habité, en fait. Les Indiens, en plus, vous regardent beaucoup. Le peuple indien est très curieux, très curieux lorsque vous êtes européen, hein, lorsque vous êtes blanc. Et c'est vrai qu'il y a une profondeur du regard, comme si on vous déchiffrait on essayait de vous décrypter avec le regard. Et c'est vrai que vous avez dû avoir peur parce que c'est inhabituel de ce peuple d'être comme ça à manifester. C'est un peuple, en tout cas, les gens sont très dociles, très calmes en Inde.
Oui. Oui, vous avez tout à fait raison, Olivier. Et les jours d'avant, je veux dire, effectivement, les gens me regardaient avec curiosité, parce qu'effectivement, je suis européen. Mais on m'accueillait avec des sourires, des photos, des selfies, etc. Et là, la veille de mon expulsion de l'hôtel, les gens m'ont appelé Corona dans la rue, fuyaient à mon passage ou se mettaient un masque. Donc vraiment, du jour au lendemain, tout a changé simplement parce que j'étais européen. Et là, ça m'a aussi vraiment alerté, en fait.
Ah oui, les gens vous interpellaient en vous traitant de Corona.
Tout à fait.
C'est dingue. Oui, donc vous parlez de l'expulsion de votre hôtel, c'est-à-dire, voilà. En fait, vous avez été prié de quitter les lieux.
C'est ce que je viens de décrire, effectivement.
D'accord. Non, mais je pensais que la patronne vous avait mis dans une de ces chambres discrètes. Donc, en fait...
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui, je me suis caché. Et donc, elle a, par gentillesse, attendu la fin du Janata curfew, le dimanche 22 mars à 21h. Et donc, toute la journée, j'ai fait appel à des amis indiens qui sont vraiment souvent extrêmement chaleureux et accueillants. pour m'aider dans cette situation-là. Et donc, de contact en contact, on m'a renvoyé vers un ami indien qui vivait à Beaumont et qui m'a accueilli chez lui. Donc, en pleine soirée, discrètement, il m'a venu chercher en voiture depuis l'hôtel et il m'a accompagné dans sa résidence dans le nord de Goa.
D'accord. Donc, actuellement, en fait, comment vous avez pris contact avec l'ambassade? Je crois qu'il y a un consulat à Goa.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, non pas à Goa, il est à Bombay, à Mumbai.
D'accord.
Donc, effectivement, à partir du moment où j'étais en sécurité chez lui, enfin, je croyais que j'étais en sécurité parce que la police est carrément venue me chercher parce que j'ai été dénoncé par ses voisins qui m'ont vu arriver dans la rue, qui ont appelé la police, qui voulaient m'embarquer à l'hôpital pour me faire faire un contrôle sanitaire forcé.
Oui.
Sauf que mon ami a réussi à négocier pour me garder chez lui. Et le lendemain, ainsi que le jour suivant, j'ai eu l'avis des inspecteurs sanitaires qui ont vu que effectivement j'étais en parfaite santé, j'avais absolument aucun signe de coronavirus ou je n'étais même pas un cas à risque puisque je ne revenais pas de l'étranger récemment.
Oui.
Et lui quand même ont décidé de m'assigner à domicile pour une quarantaine forcée en m'apposant un tampon à l'encre indélébile sur la main avec inscrit voilà je suis en quarantaine à la maison. Donc c'est vrai que ça a été assez, ça m'a secoué.
C'est très très violent. C'est très violent.
Voilà, et là j'ai décidé d'appeler l'ambassade, effectivement.
Donc vous avez ce tampon sur la main inscrit à l'encre indélébile qui fait de vous un pestiféré en Inde actuellement.
C'est exactement ça, effectivement.
Donc l'ambassade a tout de même assuré. Vous avez trouvé que les gens étaient conscients que votre situation était tout de même chaude, hein, quand même pour vous.
Oui, oui. L'ambassade, je tiens vraiment à le dire, a fait un travail extraordinaire dès le début de la crise, même avant. Elle a dit parce que les aéroports ont fermé du jour au lendemain aussi. Donc l'ambassade a dit les aéroports sont en train de fermer, on vous conseille de partir. Alors effectivement c'était du jour au lendemain, donc la plupart de nous avons été pris au dépourvu encore une fois. Mais dès le début de cette crise, elle a fait passer des messages sur internet en disant s'il vous plaît signalez-vous, contactez-nous, on va vous aider. C'est ce que j'ai fait et vraiment en quelques jours le consul m'a appelé, m'a bien demandé si j'étais en sécurité chez quelqu'un avec de la nourriture parce que d'autres compatriotes s'étaient vraiment fait mettre encore une fois dehors de leur hôtel et s'étaient retrouvés sans pouvoir manger ni boire parce que je rappelle que le couvre-feu, le confinement a été du jour au lendemain, c'est-à-dire tous les commerces ont été fermés, absolument tous, et interdiction de sortir du domicile.
D'accord, oui, le confinement en Inde n'est pas comme chez nous, on n'a absolument pas le droit de sortir là-bas. Ouais.
Absolument pas.
Confinement total. Pas. Ouais. Et puis ça ne rigole pas du tout hein, en Inde. Pour le coup, il vaut mieux pas avoir affaire à la police. Là, vous êtes toujours donc à Goa. Vous pensez que vous n'aurez aucun problème pour rejoindre Mumbai, donc Bombay demain. Vous allez vous envoler demain, c'est ça?
Alors oui, effectivement, la bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques heures, c'est que l'ambassade de France a réussi à organiser un vol spécial. Il a réussi à cartographier avec l'aide de certains bénévoles touristes français tous les Français qui sont coincés en Inde et à Goa. À Goa, nous sommes près de 300. 253 Français ont accepté de prendre ce vol qui sera traité du coup depuis Goa.
Depuis Goa, d'accord, d'accord.
Tout à fait. Donc nous partons ici demain soir pour Paris via Doha grâce à l'ambassade de France.
Donc vous évoquiez, Mathias, d'autres compatriotes pour qui ça s'est mal passé.
Oui.
De quoi vous avez entendu parler concernant d'autres Français là-bas, à Goa?
Oui, alors effectivement, l'ambassade, à plus de certains bénévoles, a mis en place un groupe WhatsApp avec le consulat, avec tous les Français qui s'étaient manifestés. Et donc là, j'ai vu des témoignages absolument effrayants de Français donc, qui s'étaient retrouvés encore une fois coincés dans leur hôtel sans nourriture et qui étaient sortis dès les premiers jours pour essayer de trouver à boire ou à manger dans les commerces et qui ont immédiatement été soit arrêtés, soit pire, bastonnés par la police qui sont munis de matraques, de bouts de bambou en fait, donc violemment frappés. Et donc toute sortie encore une fois est prohibée, encore plus pour ces Européens, pour ces Français qui sont visibles parce qu'ils ont un rapport physique. Et donc ils sont obligés de compter sur encore une fois la générosité des Indiens qui ne les considèrent pas comme les pestiférés parce qu'il y en a encore évidemment ici, pour leur amener de la nourriture, cette nourriture qui se trouve alors j'ai envie de dire sur une espèce de marché noir.
Oui.
Des habitants qui offrent, qui vendent au plus souffrant de la nourriture. Depuis quelques jours, le gouvernement de Goa a essayé de mettre un service de ravitaillement en place qui n'a absolument pas marché, a essayé d'ouvrir une boutique ou des parties par là avec le strict nécessaire, à savoir des lentilles, du riz, de l'huile de mauvaise qualité, vraiment absolument le strict nécessaire. Donc les gens, vous imaginez bien sûr les gens qui vivent dans la pauvreté, le dénuement ici, sont absolument désespérés. Donc les Indiens sont extrêmement mal aussi à cette situation, bien sûr.
Oui, je me doute. Et en même temps, vous évoquez que une partie de la population est restée tout de même solidaire avec ses compatriotes. Oui. Parce que voilà, il faut quand même vous préciser à vous qui écoutez que l'Inde est un pays extrêmement accueillant et que comme partout, lorsqu'on se comporte bien, il y a aucune raison que ça se passe mal, et c'est un pays que je vous conseille fortement. Maintenant, c'est vrai que qu'est-ce que ça traduit pour vous, Mathias, ce comportement qu'ont eu les Indiens vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que ça traduit au fond? Est-ce que finalement on peut dire que c'est de la poudre aux yeux, tout ça, c'est du cinéma, lorsque les Indiens vous sourient, lorsque vous allez là-bas, ou alors c'est la peur qui tout à coup guide ces personnes?
Non, oui, absolument pas, bien sûr, et l'hospitalité indienne est toujours là. Bon, j'ai été accueilli par mon hôte qui m'a défendu auprès de la police, auprès de ses voisins, pour me garder chez lui. Donc voilà, il y a bien sûr cette hospitalité qui est sincère, qui est présente. Moi, ce que je pense, il s'agit simplement d'une psychose mondiale généralisée, avec un manque de préparation des autorités, comme en France, comme un peu partout, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, une véritable psychose qui s'est installée avec « on a besoin de trouver un bouc émissaire ». J'ai envie de dire, en France, au début de l'épidémie, souvenez-vous, on pointait du doigt les personnes d'origine asiatique, n'est-ce pas, les Chinois?
Oui.
Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est les Européens qui nous ont ramené la maladie d'Europe, quand ça a dégénéré d'Europe.
Oui,
et
oui.
Pas que les Européens, d'ailleurs, parce que j'ai des amis qui sont indiens, qui sont originaires du nord-est de l'Inde, qui ont des apparences asiatiques, là-bas,
oui.
Et qui se font aussi malmener ici, parce qu'ils ont une apparence asiatique. Donc c'est vraiment une psychose, je sais pas, associée à peut-être une espèce de racisme, j'arrive pas très bien à comprendre, mais qui s'installe en tout cas d'un coup sur le pays.
Je rappelle que tout de même, il y a un système de caste encore en Inde, et que
bien
évidemment, on peut deviner derrière ce type de comportement qu'on n'est pas pareil, hein, de toute façon. Hein, ce sont deux cultures très, très éloignées l'une de l'autre. Donc, demain, vous partez à quelle heure? Il est quelle heure, là, chez vous?
Alors là, il est 2h20 du matin.
D'accord. 2h20 du matin, et votre avion est donc prévu à quelle heure?
Il est prévu à 20h40.
D'accord. Et c'est la compagnie Air France qui vous rapatrie?
Non, en l'occurrence, c'est Qatar Airways, une rare compagnie encore circulée dans le monde.
D'accord. Parce que, oui, ça m'étonnait, parce qu'il n'y a pratiquement plus de vols Air France. Hein. Je crois que j'ai vu le dernier vol ce soir partant d'Orly. Donc vous serez, si j'ai bien compris, 256 Français demain à être rapatriés direct de Goa.
Depuis Goa, exactement. Et les vols continuent depuis d'autres parties de l'Inde, notamment en Delhi. Encore hier soir, un vol est parti à destination de la France. Donc encore une fois, c'est un travail extraordinaire de la part de la cellule de crise du Quai d'Orsay et des ambassades. L'ambassade d'Inde a été extrêmement réactive et efficace. Et donc vraiment, les remercie pour ça.
Qu'est-ce que vous retiendrez de cette mésaventure, Mathias?
Ben oui, j'ai beaucoup réfléchi. Je me dis effectivement, présence à la mer a toutes les raisons, j'ai envie de dire. Mais oui, alors c'est vrai, l'ambassade avait bien dit rentrer en France dès que possible avant la fermeture des aéroports. Simplement, voilà, j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est absolument inimaginable, où qu'on soit. Ce virus nous a pris de court, aussi bien les experts que les autorités gouvernementales, que les médecins ont les grosses informations. Et je pense que tout simplement, tout le monde a été pris de court. Alors j'ai envie de dire, on aurait peut-être dû anticiper plus, qui que ce soit, mais comment faire dans ces conditions? J'ai envie de dire, d'appeler à la prudence et à l'anticipation, mais c'est extrêmement délicat. En tout cas, j'ai qu'une une attente, c'est que cette crise mondiale se termine. Je ne sais pas dans quel état sera le monde après ça, et surtout le milieu du tourisme aérien. Mais bien sûr, j'aimerais continuer mon voyage et retrouver des relations pacifiées.
Vous reviendrez donc en Inde?
Mais écoutez, oui, j'ai encore toute la moitié nord à faire, donc...
Ouais, ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que tout ça ne vous a pas donc dégoûté de l'Inde?
Non, j'ai compris que c'était une situation absolument exceptionnelle. Je pense que vraiment, les gens paniquent, sont en psychose, parce que ce qui nous arrive est inimaginable, insaisissable, presque incompréhensible. Et donc, les gens cherchent de trouver des explications, des boucs émissaires. Et je sais que ce n'est pas personnel envers les Européens ou quoi que ce soit. Vous l'avez dit plusieurs fois. C'est un pays tout à fait accueillant, extrêmement riche et chaleureux, avec beaucoup de choses à découvrir, immense. Donc, on ne peut pas s'en priver. Je pense que la période est particulière et il faut simplement rester chez soi.
On avait la semaine dernière une Alexandra qui nous appelait de l'aéroport de Dakar. Ça faisait 10, 12 jours presque que des Français étaient coincés là-bas à Dakar.
Dans ce cas, c'est aussi 10 jours.
Ouais, et donc, du coup, qui découvrait aussi l'aspect incroyable de cette situation, inédit, et qui avait été, elle aussi, prise de court, avec une situation qui n'était pas encore tout à fait nette en Afrique, avec une situation qui n'était pas encore... Le confinement n'était pas encore présent. Or, vous, vous parlez d'un confinement total, qui est bien différent de celui de la France.
Oui.
Comment les gens font pour manger au-delà de... Parce que vous avez évoqué ce marché noir, mais est-ce que le gouvernement organise quand même... parce que le gouvernement ne peut pas miser sur le système D. Comment le gouvernement organise en Inde le réapprovisionnement des gens?
Oui, mais ce que je peux vous dire, effectivement, c'est sur les témoignages des autres Français, mais aussi de mon hôte, qui se débrouille pour nous ravitailler. Donc lui me raconte qu'il simplement se tient informé sur WhatsApp, les gens s'informent entre eux, et on me dit à un tel moment, il y a une personne qui vend ça, il faut y aller, ou à un tel magasin qui est ouvert aujourd'hui sur décision du gouvernement de Goa, qui va vendre le strict minimum. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance, qui peut attraper l'information et la victuaille en même temps, sera heureux. Donc c'est extrêmement désorganisé. Je pense encore une fois que le gouvernement a été pris de court. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il ne rigole pas sur les mesures sécuritaires, puisque l'armée, un corps paramilitaire a été déployé depuis deux jours. Et donc la police est présente dans la rue, les barricades sont là, et le ministre en charge de l'État du Tel Aviv a laissé possible l'ouverture du feu à vue sur les gens qui ne respecteraient pas le confinement. Donc, ça vous laisse imaginer ce qui peut arriver prochainement, éventuellement en Inde.
Oui, ça ne rigole absolument pas.
C'est un désastre, vraiment.
Ça ne rigole absolument pas. Ouais.
Donc voilà, c'est vraiment... ça ne rigole pas.
D'où en fait, l'état d'esprit dans lequel vous devez être là, après avoir vécu ça, et je pense à tout... aux nombreux compatriotes qui sont comme vous coincés à Goa et qui doivent avoir une légère, grande envie de retrouver, ça doit être peut-être être bien la première fois qu'ils ont envie de rentrer de vacances aussi vite, non? Parce que vous devez être pressé de retrouver la France, là, non?
Oui, écoutez, alors c'est vrai qu'on se dit que c'est un paradoxe parce qu'ici, c'est soleil toute la journée, il fait 32 degrés, il y a la plage, les palmiers, on le voit depuis chez nous. Mais si vous voulez, on se dit, mais, en fait, on est confiné aussi autant qu'en France, on doit rester à la maison. Donc à quoi bon être proche de notre famille en sécurité, avec du ravitaillement, avec des supermarchés ouverts, avec voilà, des règles claires. Donc oui, on a absolument tous envie de rentrer, c'est clair.
Alors sachez que vous allez retrouver quand même un pays qui est extrêmement confiné aussi, puisque vous le savez. Mais comme vous l'avez dit, il y a quand même... Qu'est-ce qui peut manquer en Inde? Qu'est-ce qui peut manquer à un Français en Inde, un Français qui est confiné actuellement? Qu'est-ce qui peut lui manquer?
Tout simplement la base, c'est-à-dire la nourriture, voilà.
Oui.
C'est la nourriture, en plus des libertés individuelles, bon, c'est la situation en France, mais si la nourriture n'est pas disponible, et le taux qui est disponible, c'est extrêmement limité. Encore une fois, ça se limite à deux ou trois articles de base.
D'accord. Depuis combien de temps la police là est venue? Vous m'avez dit cette encre qu'on vous a mis sur la main, en fait, vous l'avez expliqué ça à l'ambassade? Vous leur avez dit qu'on vous avait traité comme ça? Comment ils ont vécu ça? Ça les étonnait, ça?
Alors non, il y a eu d'autres cas similaires, il y a eu même pire. Effectivement, comme je l'ai mentionné, la police voulait m'amener à l'hôpital. Mon hôte a négocié pour me laisser tranquille chez lui. Et le consulat m'a informé qu'un Français avait été emmené de force à l'hôpital. Il était resté pendant deux semaines en quarantaine, dans des conditions hospitalières évidemment qui sont aussi très éloignées de la France. C'est aussi inimaginable. Bien sûr, la France a aussi un manque d'anticipation à ce niveau-là, mais ici, les infrastructures ne sont absolument pas les mêmes. Donc, ça a été très compliqué pour lui. Et c'est vrai qu'il y a même d'autres cas. Il y a même un journaliste de France 2, pour ne pas l'expliquer, qui est confiné chez lui parce que revenant de l'étranger, et on a apposé une affichette sur son domicile en disant « Ceci est une maison potentiellement contaminée ».
Ah oui, oui, carrément.
Donc, il n'a pas le droit de sortir de chez lui, et tous les voisins ont son nom, ont cette vision, et c'est le pestiféré du quartier. C'est ce journaliste français, parce qu'on a entendu cette mais il y en a plein qui sont dans cette situation-là.
C'est assez glaçant d'entendre ça, quand même, parce que ça fait presque penser à des temps plus sombres qu'on a pu connaître en 40. Ça fait penser à ça, finalement. Les pestiférés...
Alors, en Europe, possible. Je ne sais pas s'ils ont ça, l'idée, cette idée en tête, mais pour nous, Européens, c'est effectivement très choquant.
Oui, ouais, je me doute. Bon, là, vous êtes, vous touchez au but, hein, Mathias. Vous y êtes, là. Vous n'avez pas peur que le vol soit annulé. Tout doit bien se passer demain, normalement.
Non. L'ambassade a vraiment les choses sous contrôle. Ils ont même envoyé des chauffeurs, des bus pour venir nous chercher un par un dans Pougoa. Donc, c'est une logistique extraordinaire. Ils prennent les frais à leur charge pour le transport des bus et pour le billet d'avion, la moitié. Ça le précise, l'autre moitié est à notre charge. Mais c'est vraiment voilà, un travail logistique extraordinaire. Donc, j'ai vraiment confiance au service de l'ambassade.
Parce que je crois en plus que là où vous êtes, à Goa, au niveau Internet, c'est assez bien desservi, hein, l'état de Goa.
Alors oui, on a cette chance-là, effectivement. Moi, je suis en 4G, j'ai aucun problème. Mais ça, encore une fois, ça se dégrade. Pour le moment, Internet marche très bien. Mais par exemple, depuis hier, ils coupent l'électricité 2 heures par jour, vous voyez. Donc j'ai vraiment peur que tous les services commencent à se dégrader, que ce soit voilà, l'eau, l'électricité, la nourriture.
Bon, bah, écoutez, il est temps que vous rentriez, Mathias. Voilà. Je vous souhaite un très bon retour et bienvenue, welcome in Paris demain, d'accord?
Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée à tous.
Bon voyage, Mathias. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.